Chapitre 2. Rémy contenait son indignation, mais elle le brûlait en dedans. Lourneuve, avec ses petits commérages, ses mesquineries, ses défiances, lui paraissait absolument haïssable. Il n'eût demandé qu'à secouer contre elle la poussière de ses souliers et à lui tourner le dos pour toujours. Mais s'enfuir sans avoir découvert le lâche insulteur qui crachait sur sa réputation, mais savoir que derrière lui on hocherait la tête, qu'une légende calomnieuse s'attacherait à son nom. Le docteur avait raison, il fallait déchirer cet abominable tissu de mensonges. Comment ? Rémy marchait, la tête baissée, sans s'apercevoir que la pluie commençait à tomber. Tout à coup, un parapluie le frôla de si près qu'il faillit lui enlever son chapeau. Rémy jeta un regard distrait sous ce dôme de soie myrte et reconnut M. Colombe. « Pardon, dit celui-ci avec une froideur marquée, je vous ai heurté, je crois. » Mais quand il remarqua l'air triste du jeune homme, dont il s'était proposé de guider les voies, il s'adoucit. « Vous n'avez pas de parapluie, fit-il, songeant tout d'abord à l'hygiène. Vous vous enrhumerez. Montez chez moi pour laisser passer l'averse. » Il élevait son parapluie de façon à abriter Rémy. « Je vous remercie, dit celui-ci, mais j'ai des préoccupations qui me rendent peu sociable. » « Nous en avons tous, fit M. Colombe avec précipitation. Il faut les supporter patiemment, attendre la fin, croire, espérer. Comme ce trottoir est mouillé, et moi qui n'ai pas de galoche. Mais nous voici à ma porte. Vous ne voulez pas monter, décidément? Prenez du moins mon parapluie. Non ? Je vous aurais accompagné volontiers, mais je n'ai pas de galoche et je me sens déjà les pieds humides. » Il ouvrit en toute hâte la porte de sa maison, un chef-d'œuvre de vieilles menuiseries et de vieilles ferrures en fleurs de lys. En l'entendant retomber derrière lui, il eut un soupir de soulagement. Dans cette affaire de lettres anonymes, il voulait rester complètement neutre et il s'était juré de n'aborder ce sujet avec personne. Rémy, pour attendre la fin de la giboulée, entra chez le tailleur dont le magasin formait l'angle de la rue et s'honorait de l'antique maison de commerce, Lumeau et Fils, British Tailors. Il fut reçu par l'artiste lui-même qui se pencha au-dessus du comptoir pour le considérer avec une politesse un peu soupçonneuse. Rémy crut s'apercevoir que les commis se poussaient du coude. « Que désire, monsieur ?»« Je n'en sais rien. » « Montrez-moi des cravates, si vous voulez. » Il prit une chaise, le marchand suivait tous ses mouvements d'un œil anxieux, comme s'il eût cru avoir affaire à un adroit escamoteur. Cependant, les cravates furent apportées. Rémy en choisit plusieurs et les paya, ce qui opéra une révolution dans les idées de M. Lumeau. La vue d'un fort beau porte-monnaie amplement garni lui fit faire de sérieuses réflexions sur la lâcheté des lettres anonymes et le détriment qu'elles peuvent occasionner au commerce. Ce client, qui paraissait désireux de remonter complètement sa garde-robe, qui se faisait montrer les draps les plus fins sans en discuter le prix et qui donnait pour référence un des notaires les mieux posés de la ville, M. Lumeau avait failli le mettre en fuite par un accueil farouche. Il répara cette insigne maladresse autant qu'il était en son pouvoir par des accents remplis de componction et par des empressements que les commis imitaient de leur mieux. Rémy s'amusait à le voir voltiger autour de lui comme un gros papillon et à entendre ses interjections admiratives tandis qu'il prenait la mesure de sa taille et de ses épaules. Cette opération avait lieu dans un petit salon contigu au magasin et d'où tout profane était exclu. Au bout de quelques minutes, le ton de M. Lumeau devint confidentiel. « Je vous recommanderai le veston en tweed grisaille pour le matin. Cette coupe fera valoir un torse comme celui de monsieur. Je vous ai vu passer avant-hier dans l'avenue, quelqu'un m'a dit « Voilà M. Rémy d'Orbe qui revient de Constantinople » et j'ai fait, à part moi, la remarque que votre pantalon était taillé furieusement à la turque. Veuillez excuser ma liberté. » C'est malgré moi que j'observe ces choses. Mais les dames, voyez-vous, les observent aussi, et je suis persuadée qu'elles vous préféreront avec la coupe anglaise. 35 centimètres par ici, le double en travers, un costume irréprochable, c'est la meilleure recommandation. » Il s'interrompit pour soulever respectueusement le bras de Rémy. Mes coupes paraîtront avantageusement sur la charpente de monsieur, si monsieur veut bien excuser l'expression. Ce paletot, par exemple, frotté aux coutures, il n'en faut pas davantage pour faire causer toute une ville. Monsieur ignore sans doute que le bruit a couru, que monsieur était revenu d'Orient, absolument décavé, avec des malles pleines de tapis de Perse à vendre, mais sans une redingote présentable. La voix de monsieur Lumeau était si tragique que Rémy ne put s'empêcher de rire. On a beau dire, reprit le tailleur, le costume est toujours ce qui distingue les peuples civilisés des sauvages. Il n'y a guère que cela, en effet, fit Rémy avec ironie. Et l'on a mis en circulation autre chose que des rumeurs, poursuivit monsieur Lumeau. Ma conscience m'oblige à vous le révéler. On a été jusqu'à écrire des lettres anonymes, et j'en ai reçu une, et la voici. Il se précipita vers un pupitre à casier. Tandis qu'il mesurait Rémy, son repentir n'avait fait qu'augmenter à chaque minute, et il se croyait obligé de donner maintenant une preuve extraordinaire de confiance et de contrition à ce client d'abord méconnu. Voulez-vous la lire, ou faut-il la déchirer pour vous montrer le cas que j'en fais ? S'écria-t-il en agitant un papier jaunâtre que Rémy ouvrit et parcourut d'un air indifférent. « Avec votre permission, je le garde, » dit-il en tirant son portefeuille. « J'en aurai bientôt une collection. Il va sans dire que vous n'avez pas une minute à jeter foi à cette calomnie. Pas une seconde, je vous le jure. C'est le pantalon qui a fait tout le mal que je me suis dit instantanément. » L'homme extérieur, c'est ce qu'on juge, voyez-vous ? Soyez sûr que c'est le tailleur qui fait la réputation et que je mettrai tous mes soins à rétablir la vôtre. » Sa voix s'émut. Rémy, qui n'avait plus envie de rire, le remercia de ses intentions obligeantes et sortit. Un refuge lui restait dans ce lot neuf hostile et défiant, le salon de Madame Vandeuvre. Il s'y rendit. « Pourvu qu'elle ne soit pas affilée, » se dit-il, « car il n'était pas en humeur de marivaudage. » Madame Vandeuvre ne filait pas. Elle écrivait une lettre et ferma son buvard quand elle aperçut Rémy. Elle aussi semblait plus sérieuse que de coutume. « Venue en ville malgré la pluie, c'est méritoire. Pour moi, je déteste ces giboulées du printemps. Comme vous voyez, j'étais ici, toute seule, à méditer sur mes péchés. » Vous en avez de graves sur la conscience ? Assez, j'ai mis la ville en feu, et voilà que l'incendie m'amuse moins que je ne croyais. Je n'en suis plus maîtresse, cela commence à m'inquiéter. Et puis, il surgit des complications. Avez-vous vu Mademoiselle Odèle aujourd'hui ? Rémy rougit vivement, mais comme il tournait le dos à la fenêtre, il espéra que cette émotion soudaine échapperait à Madame Vandeuvre. « Je n'ai fait que l'entrevoir, » répondit-il brièvement. « Je n'ai pas même pu la saluer. »« D'où venait-elle ? D'où venait-elle ?» Ici, Madame Vandeuvre s'interrompit en entendant un bruit de roue sur le pavé. Elle s'approcha de la fenêtre. « Une visite pour moi ? Non, c'est le coupé de Monsieur Colombe. Pourquoi s'arrête-t-il ? » Le cocher retenait son cheval qui piaffait devant un obstacle d'abord invisible. Puis, la voiture ayant reculé de quelques pas, on aperçut au milieu de la rue un grand mouchoir blanc que le vent avait enlevé à quelques lessives et jeté sur le pavé. « Si j'étais Monsieur Colombe, je me déferais de cette bête ombrageuse, » dit la jeune femme. « Imaginez qu'elle a peur du blanc. L'autre jour, je l'ai vue faire un grand écart devant un mur fraîchement passé à la chaux. » Monsieur Colombe venait de se montrer à la portière. Au bout d'un instant, il l'ouvrit et, mettant pied à terre, ramassa lui-même le mouchoir, car son cocher n'osait lâcher les rênes. Il était en habit noir et en cravate blanche, ses souliers vernis semblaient craindre le contact du pavé. « Que signifie ce costume à cette heure ? » fit Madame Vandeuvre qu'une pensée subite parut frapper. « On ne s'habille ainsi que pour une demande en mariage. » poursuivit-elle en regardant Rémy furtivement. « Tenez, voulez-vous faire un pari ? Non, le pari vous semble une institution immorale ? Je parierai très volontiers contre vous, pourvu que je sois sûre de perdre, » répondit-il. Soyez sans crainte. Je parie que dans 8 jours, Mademoiselle Odel sera fiancée à Monsieur Colombe. Et moi, je vous jure qu'elle ne le sera pas, fit-il en se levant brusquement. Bon voyage, dit-elle avec un petit rire, en suivant des yeux le coupé qui s'éloignait. Ah, vous vous y opposez ? Poursuivit Berthe la fileuse, revenant à Rémy, qui, les sourcils encore froncés, frémissait d'une émotion singulière. Je suis charmée que nous nous rencontrions sur ce point. Monique n'est pas faite pour la philanthropie. Mais les jeunes filles s'ignorent parfois elles-mêmes. Ah, c'est une terrible méprise qu'elle commettra si elle dit oui. Puisque vous êtes son amie, avertissez-la, s'écria Rémy. Madame Vandeur haussa les épaules. Elle demandera 8 jours pour réfléchir. Si je la vois dans l'intervalle, je lui glisserai un petit mot, mais c'est une affaire délicate, je risque de me mettre à couteau tiré avec Mademoiselle des Anges si je contrecarre un de ses projets favoris. Rémy se prit la tête à deux mains. Chacun a donc quelque intrigue à mener, dit-il avec une sorte de désespoir. C'est à devenir fou. Dans cette odieuse ville, qui est-ce donc qui ne machine rien ? Moi, dit Madame Vandeur avec sérénité. Elle le regardait, et ils ne purent s'empêcher de rire tous deux. Asseyez-vous, dit-elle, je vais vous débrouiller tout cela. Au fond, l'eau neuve était là du règne de Monsieur Colombe. J'ai donné la chiquenaude nécessaire, et l'écroulement a commencé, avec passablement de bruit et de poussière. Voilà tout. Les uns disent, c'est bien fait, ce sont vos partisans. Mais les conservateurs protestent, intriguent, minent, ils vous ont suscité un ennemi, ils répandent sur vous des bruits défavorables. Deux camps, deux étendards, voilà la situation. Comme c'est simple, n'est-ce pas ? Les femmes ont fait la fronde, dit Rémy. Les femmes font tout, c'est incontestable. Sans elles, le monde serait une stagnation. Mais si vous avez des inquiétudes personnelles, rassurez-vous, tout s'éclaircira, tout finira comme une sonate de Mozart, dans une harmonie brillante et victorieuse. Quant à Monique, je suis absolument sûre. Rémy la regardait avec une anxiété qui ne dissimulait pas. Qu'elle demandera 8 jours de réflexion. On annonça un autre visiteur et Rémy se retira tout après. L'impression angoissante qu'on a en rêve, quand, perdu dans un labyrinthe, on s'épuise à en chercher l'issue, le poursuivait depuis le matin. Il se sentait pris dans le plus tortueux entrelacement des faits, sans cause apparente, de manœuvres obscures et de mystérieuses menaces. La tête lui tournait. Comme Monique, il chercha la solitude de quelque promenade déserte où il put suivre sans distraction le fil confus de ses pensées. Un danger vague rampait autour de lui. Saisir l'ennemi anonyme lui paraissait tout à l'heure la première nécessité de sa situation, mais les paroles de Madame Vandeuvre avaient fait surgir un bien autre péril dont l'idée seule l'avait secoué jusqu'au fond de son être. Aimait-il donc Monique ? Peut-être, il n'avait pas songé à se le demander. Le sentiment de calme, d'apaisement, de sécurité qu'il trouvait auprès d'elle, l'admiration pour cette transparente sincérité qui était comme la limpide enveloppe de son âme, l'attrait qui l'obligeait à suivre tous ses mouvements, toutes ses paroles, était-ce de l'amour ? C'était moins et c'était plus. Il n'aurait pu dire de quelle couleur étaient ses yeux, mais il y avait lu des choses ineffables. Quoi ? Monsieur Colombe, cet homme de bois, cette raide incarnation de la responsabilité, et Monique, ce rayon, cette gracieuse créature pétrie de rêves, d'impulsions et d'inconséquences. Rémy quitta brusquement le banc sur lequel il s'était assis et reprit à grandes enjambées sa promenade sous les tilleuls. Que faire ? Dans sa position actuelle, en butte à des accusations trop vagues, trop insaisissables pour qu'il pût les réfuter, entouré de malveillance ou de cette froide impartialité qui se tient sur ses gardes, comment offrirait-il son nom à Monique ? Il fallait le mettre hors de toute atteinte, ce nom. C'était là l'urgence la plus positive, la clé de voûte sans laquelle tout s'écroulerait. Rémy suivait les quais, prêtant distraitement l'oreille aux cris des mouettes qui se lamentaient toujours. Il finit par sortir de la ville presque sans s'en apercevoir. Il trouva tout l'hôtel Ripache en ébullition. On déroulait des tapis sur le grand perron. Le vestibule était plein de lauriers roses et M. Ripache lui-même, en costume de cérémonie, tapotait le baromètre avec anxiété. « Nous attendons des hôtes illustres un prince exilé et son épouse, » dit-il avec quelque pompe en se tournant vers Rémy. Puis il ajouta, en baissant respectueusement la voix, « Le prince d'Algie, monsieur !»« Quand arrivera-t-il » demanda Rémy, qui avait rencontré le prince 2 ans auparavant dans de grandes chasses en Transylvanie. « Tout à l'heure, j'attends les voitures d'une minute à l'autre. Ce qui me désespère, c'est ce temps gris. Heureusement, le mercure remonte. Le prince a de nombreux amis à l'Eau-Neuve, dans la colonie étrangère et même dans la société de la ville. Je viens d'apprendre qu'il se propose de célébrer son arrivée par une fête nautique donnée sous les fenêtres de l'hôtel. Nous illuminerons les jardins, la terrasse et nous solliciterons la présence du monde élégant. Ce sera superbe si la pluie nous fait grâce. Ah, poursuivit M. Ripache avec effusion, on a beau être républicain de naissance et démocrate par conviction, une altesse vous remue toujours, surtout quand elle prend tout le premier étage. Ici, Vivus Martinus s'approcha d'eux comme s'il avait quelque communication à faire. Mais il se ravisa et s'éloigna brusquement. « Pendant que j'y songe, dit Rémy, laissez-moi vous mettre en garde, monsieur Ripache, contre ce garçon blafard. »« Martinus ? Ah, il s'appelle Martinus, je le crois un peu détraqué. Par moments, ses allures sont presque alarmantes. » Adrien, notre garçon en chef, ne cesse de se plaindre de lui, dit monsieur Ripache. Je le congédierai à la première occasion. Mettez-y des ménagements, je le crois capable d'une action désespérée. Monsieur Ripache ne répondit pas. Son esprit s'envolait à la rencontre des altesses attendues.